le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, reprise effective des opérations militaires FRDC MONUSCO dans le territoire des Béni, artillerie et hélicoptères de combat mis en contribution pour neutraliser les ADF et d'autres forces négatives dans la région. Les détails dans ce magazine. Près de 5 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë en RDC. C'est le constat fait par les participants à un atelier organisé la semaine dernière à Goma au Nord Kivu avec l'appui du PAM et de la FAO. Enfin, la dynamique de groupe de peuples autochtones, lauréat du prix Équateur 2015, un prix décerné chaque année par l'ONU et d'autres partenaires pour promouvoir les développements durables et sauvegarder les forêts. Les développements de ces titres dans un instant.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. La MONUSCO confirme la reprise effective des opérations militaires FRDC MONUSCO dans le territoire des Béni. Confirmation faite le mercredi dernier par le porte-parole AI de la mission au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Vous avez assisté à ce rendez-vous avec la presse. Bonjour Jean-Pierre Elali Coco.
Bonjour Nadine et bonjour aux chers auditeurs de Radio Capi. Selon Charles Antoine Bambara, la MONUSCO a ciblé et a même commencé à pilonner les positions des ADF avec artillerie et hélicoptères d'attaque. Objectif, neutraliser les ADF et les autres groupes armés qui écument la région. Je vous propose de l'écouter.
Les événements, c'est effectivement le ciblage des positions ADF dans le Grand Nord que nous avons commencé à pilonner, non seulement avec l'artillerie de la MONUSCO, mais des FRDC, que nous avons commencé à pilonner aussi avec les hélicoptères d'attaque de la MONUSCO. Et comme j'ai dit, nous avons beaucoup plus de troupes maintenant au sol, aux côtés des FRDC, pour les appuyer dans cette action de reconquête un peu, si vous voulez, de certaines positions ADF dans cette partie du Grand Nord. Ce n'est pas l'heure des bilans déjà, mais nous pouvons dire que cela avance de façon positive et nous allons vous faire dans les prochains jours un bilan beaucoup plus détaillé des avancées que nous avons pu réaliser sur le terrain, des avancées avec les FRDC bien entendu.
Autre question, y a-t-il une stratégie militaire en MONUSCO-FRDC pour annihiler les groupes armés? Oui, affirme Charles Bambara.
Sans doute oui, je ne suis pas militaire, je n'ai pas de galon de général, mais je sais que effectivement il y a une stratégie militaire qui a été élaborée depuis de très longues dates, depuis l'époque où les opérations conjointes devaient commencer, d'ailleurs contre les FDLR, une stratégie militaire conjointe FRDC-MONUSCO avait été arrêtée et devait être déroulée. Je suis sûr que ces stratégies ont été revues, ont été mis dans le contexte local sécuritaire maintenant pour pouvoir être déroulées en temps et heure voulue.
Quant à la société civile de Béni, la MONUSCO estime qu'elle constitue un partenaire avec lequel la mission doit travailler. C'est pourquoi la MONUSCO sollicite son appui en particulier et celle de la population du Grand Nord en général pour venir au bout des ADF.
La société civile devrait savoir que la MONUSCO et la société civile sont partenaires. Nous sommes partenaires contre justement ces groupes terroristes qui violentent les populations locales, qui traumatisent les populations locales et cela est intolérable. Nous avons toujours demandé l'appui de ces populations du Nord Kivu, du Grand Nord, pour nous aider dans la tâche justement qui nous est demandée par le Conseil de sécurité des Nations Unies de neutraliser ces groupes armés et nous voulons vraiment l'appui de la société civile.
Autre actualité Jean-Pierre, c'est le rapport de la situation humanitaire en RDC pour le mois d'avril 2016.
Nadine, ce rapport mensuel a été rendu public mercredi dernier. Je vous en propose les grandes tendances avec Florence Marchal, porte-parole de l'équipe Pays des Nations Unies.
Une baisse dans les cas documentés de violation des droits de l'homme sur le territoire de la RDC a été enregistrée pour le mois d'avril 2016 avec 366 violations des droits de l'homme contre 410 au mois de mars. Alors les provinces les plus touchées restent celles de l'Est de la RDC. Les agents étatiques, c'est-à-dire PNC, FARDC, ANR et autres autorités administratives, ont été responsables de 52% des violations des droits de l'homme. Parmi les groupes armés, ce sont les combattants des forces de résistance patriotique de l'Itouri, FRPI, qui sont les principaux acteurs des violations des droits de l'homme, avec 48 violations ayant causé 41 victimes, suivies des combattants de l'armée de résistance de Seigneur, qui sont responsables de 38 violations, et puis ceux des FDLR, responsables de 23 violations.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour toutes ces informations.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Grâce au soutien financier du gouvernement du Japon, UNMAS, le service de lutte anti-mine des Nations Unies, a récemment formé près de 80 officiers et sous-officiers de la PNC de Kinshasa et Goma à gérer leurs armes et munitions. Occasion pour le magazine des Nations Unies de revenir sur l'entretien que Jean-Pierre Elali Koko a réalisé récemment avec Bruno Bouchardi, coordonnateur régional du programme UNMAS RDC. Suivez.
Monsieur Bruno Bouchardi, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes coordonnateur régional pour le programme UNMAS en République démocratique du Congo. Le 4 avril, c'est la journée mondiale anti-mines. Les Nations Unies s'étaient engagées à militer plutôt pour un monde exempt du danger des mines antipersonnelles et d'autres engins explosifs d'ici 2021. Est-ce que cet engagement est en train de se matérialiser ou en est encore au niveau des intentions?
Eh bien, je dirais que pour la République démocratique du Congo, on est dans le concret depuis quelques années déjà. On a bon espoir de réaliser cet objectif 2021 dans de bonnes conditions.
Et en ce qui concerne le monde en général?
En ce qui concerne le monde en général, en fait, la date de 2021 a été fixée suite aux accords d'Ottawa pour la RDC. Pour d'autres pays qui connaissent une contamination et une situation sécuritaire plus déstabilisée, plus critique, cette limite a été reculée.
Revenons justement en République démocratique du Congo. UNMAS, c'est sur tous les fronts, mais je prends un aspect tout à fait particulier, c'est l'aspect qui concerne la sécurisation des armes et munitions. On sait que les locaux de stockage, selon les normes internationales, font défaut en République démocratique du Congo. L'année 2016 est supposée être une année électorale. Quelle est votre action dans ce domaine, notamment pour la police et le Centre congolais de lutte anti-mines?
Eh bien, pour la police, je dirais que c'est un de nos axes d'efforts majeurs pour la fin de l'année 2015 et pour l'année 2016, dans le sens où nous collaborons avec la PNC pour élaborer un plan national de gestion des armes et des munitions, dans le cadre duquel on a commencé déjà à développer l'amélioration d'infrastructures de stockage, à développer des formations de spécialistes pour la gestion des armes et des munitions, et également à développer des procédures standards nationales qui soient conformes aux standards internationaux. Tout cela dans le cadre de l'appropriation nationale, naturellement, de cette gestion.
Un autre aspect de votre action, c'est la gestion des engins explosifs. Hein. Quel bilan vous faites pour l'année 2015?
Alors, vous m'excuserez de dire que ce bilan est positif quand on parle de tels engins de mort, mais typiquement pour le programme et tous ses partenaires, l'année 2015 a été particulièrement riche. Je le dis à chaque fois, un engin retiré du terrain, une mine déminée, une mine neutralisée, c'est autant de victimes potentielles en moins. En termes de chiffres, on peut dire qu'on a environ déminé ou dépollué environ 330 000 m² de terrain, situés toujours à proximité d'habitations ou de terrains cultivables. Un peu plus de 200 mines ont été retirées du terrain, 69 sous-munitions ont été ramassées et détruites, et environ 30 000 résidus explosifs de guerre autres que mines et sous-munitions ont été ramassées, dépolluées et détruites.
On va revenir sur le terme dépolluer, mais oui. Où cette opération s'est passée exactement en République démocratique du Congo?
Alors, l'essentiel des opérations pour l'année 2015 se sont déroulées à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit dans les deux Kivu, dans l'ancienne province orientale et dans la région du Katanga. On parle bien ici essentiellement des opérations de déminage.
Et avec quels partenaires?
Alors, on a des partenaires qui sont à la fois des partenaires étatiques, le Sicilam, des partenaires nationaux avec des organisations non gouvernementales nationales, et des partenaires internationaux comme les ONG Mines Advisory Group, NPA, Norwegian People Aid. Et comme partenaire, je dirais, institutionnel, comme sponsor, si vous me permettez l'expression, essentiellement le gouvernement du Japon, l'Italie, les Pays-Bas, pas mal de gouvernements qui se sont engagés pour participer à cette lutte.
Et parlons maintenant du volet enquête et dépollution. Qu'est-ce que cela signifie, enquête et dépollution?
Dépollution, je comprends que c'est un terme qui peut paraître désorientant pour la gestion des engins explosifs. En fait, on parle de dépolluer lorsque on retire du terrain et qu'on neutralise tout engin explosif ou résidu explosif autre qu'une mine. Donc ça peut s'agir d'obus de mortier, il peut s'agir de bombes d'aviation, il peut s'agir de roquettes anti-chars. Mais dans ce cas-là, on parle de dépollution du terrain.
Est-ce qu'il y a encore du travail à faire pour l'instant ou bien c'est moins?
comme je vous le disais, le bilan est extrêmement positif pour l'année 2015, qui prouve que l'augmentation des capacités au niveau national a été effective. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, la RDC ne sera jamais complètement débarrassée des résidus explosifs de guerre.
Et pourquoi ?
Tout territoire qui a été le théâtre de conflits connaît même des dizaines et des centaines d'années après des résurgences de ces munitions. L'objectif véritable, c'est que ces résidus explosifs de guerre, là où ils se trouvent, ne représentent plus un danger pour les communautés. Et que les communautés sachent vivre et puissent se développer tout en ayant cette présence de résidus explosifs de guerre.
Une question tout à fait pratique.
Je vous en prie.
Comment vous menez des enquêtes? Comment vous faites pour la dépollution?
Je vous remercie beaucoup pour cette question. Eh bien, en fait, effectivement, il y a deux volets dans notre action qui sont successifs. Tout d'abord, les enquêtes non techniques et techniques, et ensuite, la dépollution ou le déminage en lui-même. L'enquête non technique, c'est tout simplement un recueil d'informations auprès des communautés, auprès des autorités, ou un retour d'informations vers nos centres de coordination, ou le centre national, qui nous permettent de localiser une zone de danger, ou une zone où il y a eu un accident. L'enquête technique vient sur ce terrain pour permettre de déterminer si effectivement le danger est toujours présent, ou s'il s'agit juste d'une rumeur, ou s'il s'agit d'un accident qui est ponctuel avec une seule munition ou une seule mine qui a réagi. Cette enquête technique implique un travail sur le terrain qui parfois est assez long. Et enfin, le déminage ou la dépollution en elle-même, c'est le chantier de travail en toute sécurité, suivant des procédures standards qui permettent à nos démineurs et à nos spécialistes de travailler en toute sécurité.
Oui, à part la région Est de la RDC, est-ce qu'il y a d'autres provinces de la RDC qui sont concernées justement par ce problème des engins explosifs et des mines ?
Touché par les mines, le nombre de provinces comparativement à l'étendue de la RDC est relativement restreint. Il s'agit essentiellement des zones de conflit majeurs, comme on le disait tout à l'heure, le Katanga, l'ancienne province orientale, mais également le nord de l'ancienne province de l'Équateur. Par contre, pour les engins, les résidus explosifs, les engins explosifs qui restent sur le terrain, les munitions qui sont abandonnées, on peut considérer que la menace est présente sur l'ensemble du territoire, du fait des différents mouvements de troupes étrangères ou illégales.
J'ai lu un communiqué à M. Bruno qui parle de 2 millions de dollars que vous venez de recevoir du gouvernement japonais. Quels sont les nouveaux défis à relever avec cet important montant ?
Eh bien, nous venons justement d'en parler. Les résidus explosifs de guerre sont présents sur tout le territoire. Il y a des territoires, du fait de l'étendue de la RDC, du fait des moyens restreint de la lutte anti-mine, des territoires où il n'y a pas de présence d'opérateurs spécialistes. Notre objectif pour l'année 2016, à l'aide de ce fonds, c'est de déployer un moyen de coordination et de centralisation au niveau de 5 provinces du centre de la RDC.
Lesquelles précisément ?
Les provinces sont le Sankuru,
l'Omami,
les Kasai centrales et orientales et le Maniema.
C'est tout un projet.
C'est tout un projet.
C'est pour combien de temps ?
C'est pour, au minimum, l'ensemble de l'année 2016, avec le déploiement de deux équipes multitechniques capables de faire à la fois les enquêtes techniques et non techniques dont je vous ai parlé, mais également d'intervenir sur les engins explosifs qui pourraient avoir été décelés. Ils font également de l'éducation en risque et de la sensibilisation des communautés.
Pour terminer, Monsieur Bruno, vous avez un message à la population congolaise ?
Je dirais tout d'abord que le premier réflexe lorsqu'on rencontre un engin explosif ou une mine, c'est de ne surtout pas le toucher, surtout un message à transmettre aux enfants, et de faire connaître, surtout pas le toucher, le marquer au plus près mais sans le toucher, et faire connaître aux autorités et aux chefs de la communauté l'emplacement de cet engin pour que les mesures puissent être prises.
Bruno Bouchardi, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nous ouvrons cette page de nouvelles par cette information de l'UNPOL, la police de la MONUSCO. 100 agents de la PNC de Mambasa ont clôturé leur formation organisée pendant 6 semaines à Bunia, dans la nouvelle province de l'Ituri. La formation a porté sur les techniques pour une meilleure sécurisation du processus électoral, sur l'ordre public, le droit de l'homme, les gestes et techniques professionnelles d'intervention, la protection de l'enfant et sur les sécourismes et les violences sexuelles basées sur le genre. Dans le Haut-Katanga, 14 740, c'est le nombre d'élèves qui reçoivent un repas chaud à l'école pendant cette année scolaire. Nouvelle livrée par OCHA dans sa dernière note d'information. Parmi ses élèves, environ 6770, dont plus de la moitié des filles, étudient dans 25 écoles primaires du territoire des Mitouaba. Ce qui fait dire à OCHA que la cantine scolaire est un stimulus pour les enfants vulnérables. Enfin, à la Cour pénale internationale CPI, le bureau du procureur a requis mercredi dernier au minimum 25 ans de prison contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003. Pour le bureau du procureur, deux circonstances aggravantes pèsent sur l'ancien vice-président de la RDC, à savoir la commission des crimes à l'encontre des victimes vulnérables et la commission des crimes avec une cruauté toute particulière.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
La dynamique de groupe de peuples autochtones, DGPA, une organisation de défense des droits des Pygmées en RDC, est parmi les 20 lauréats du monde du prix Équateur 2015. Le prix Équateur est institué par l'ONU et d'autres partenaires internationaux pour promouvoir le développement durable. La DGPA a reçu son prix au cours d'une cérémonie officielle organisée mercredi 18 mai dernier à Kinshasa avec l'appui du PNUD. Monsieur Patrick Saïdi Emedi, coordonnateur national de la DGPA, s'est confié au magazine des Nations Unies dans cet entretien avec Honoré Missingakala.
Monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour.
La dynamique des groupes de peuples autochtones, RDC, vient de recevoir le prix Équateur. C'est quoi le prix Équateur?
En fait, le prix Équateur est une initiative qui a été mise en place par les Nations Unies via le PNUD au niveau international pour primer les initiatives locales en lien avec l'environnement global. En peu de mots, c'est-à-dire toutes les organisations qui militent et qui contribuent d'une manière significative sur la question liée au changement climatique.
Oui, changement climatique. Vous pouvez nous dire pourquoi prix Équateur et non par exemple prix développement durable? Pourquoi Équateur?
Tout simplement parce que nous parlons quand même de la forêt équatoriale qui est la plus grande forêt au monde. Voilà pourquoi ce prix se réfère au fait à la forêt équatoriale.
Qui sont éligibles à ce prix?
Au fait, les gens éligibles, c'est normalement d'abord les communautés autochtones qui vivent dans les espaces forestiers, mais aussi toutes les communautés au niveau mondial qui dépendent directement des forêts.
Alors, en quoi, selon vous, la dynamique des groupes de peuples autochtones mérite ce prix? Quelles sont les actions concrètes qu'elle a pu réaliser?
Au fait, en termes d'actions, il y en a beaucoup, mais je peux me résumer juste en une action, c'est l'activisme environnemental. Parce que pendant ces dernières années, on a mené un plaidoyer assidu sur toutes les questions liées aux droits environnementaux, mais aussi sur toutes les questions liées à la prise en charge et l'intégration des peuples autochtones pygmées dans la gestion de nos forêts au niveau national.
J'aurais peut-être pu commencer par là. Est-ce que vous êtes vous-même pygmée?
Non.
Mais pourquoi vous intéressez aux pygmées?
Au fait, on avait mis en place une grande plateforme qui réunit les organisations pygmées, donc gérées totalement par les pygmées, mais aussi les organisations gérées par les personnes qui accompagnent ou qui militent en faveur des peuples autochtones pygmées.
Quelle est l'implication du PNUD dans tout ce travail que vous faites?
Bon, comme vous le savez, sur la question liée au climat dans notre pays, la plupart des fonds que les pays reçoivent passent par PNUD. Et ces fonds, par la suite, sont rétribués à notre gouvernement à travers des coordinations qui sont mises en place. Ce qui fait que, d'un côté, il y a aussi cette question de la redevabilité des PNUD qui doit aussi démontrer le résultat des financements accordés au niveau national, mais aussi voir comment continuer à encourager les organisations qui militent et qui contribuent d'une manière ou d'une autre sur toutes ces questions liées au changement climatique et spécifiquement à la préservation des forêts.
Si ce n'est pas un secret, quelle est la valeur numéraire du prix Équateur que vous venez de recevoir?
C'est 10 000 dollars.
Vous allez en faire quoi?
Ok, donc avec ces prix, donc on est en train de voir comment mettre en place des petits micro-projets au niveau des campements, donc parce que nous parlons effectivement de pygmées, mais là nous voyons plus les pygmées qui sont restés dans les zones, dans nos territoires au niveau local. Et l'idée c'est de voir comment on doit appuyer quelques petits projets sur la valorisation des produits forestiers non lignés. Donc comment accompagner les ménages pygmées dans le cadre de chenilles, il y a la préservation des miels. Et l'objectif, c'est de voir si on peut créer un petit filière commerciale et commencer à écouler les produits sur Kinshasa.
Oui, concrètement, c'est dans quelle zone géographique vous allez pouvoir réaliser ce projet? En Bandaka, dans la périphérie de Kinshasa, au Kassai, parce qu'ils sont un peu partout, les pygmées.
Non, bon, là, on a ciblé des sites, si je peux dire des villages, parce que 10 000 quand même, c'est pas beaucoup, et on n'a pas des ambitions très élevées. Donc on doit travailler dans un village qui se retrouve au Bandundu, donc, qui s'appelle Loïlé, et un autre village qui se retrouve effectivement en Équateur qu'on appelle Lokuku.
Alors vous avez peut-être un dernier mot par rapport à la situation des peuples autochtones?
Non, c'est de dire que ces peuples ont été longtemps oubliés, et nous sommes contents de voir que leurs initiatives, leurs traditions et savoirs endogènes sont primés au niveau international. Certes, c'est la fierté de notre organisation, mais je ne crois pas, c'est pour tous les Congolais, c'est pour tous les pays, et il sera encore plus intéressant si ce genre de reconnaissance commence au niveau national, avant que ça soit au niveau international.
Monsieur le coordonnateur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Près de 5 millions de personnes souffrent de l'insécurité alimentaire aiguë en RDC, nous l'avons dit au sommaire. Conclusion d'un atelier organisé la semaine dernière à Goma, au Nord Kivu. Un atelier de 6 jours organisé avec l'appui du PAM et de la FAO et auquel ont pris part une cinquantaine d'acteurs venus de toutes les provinces du pays. À l'issue des travaux, les participants ont adopté les outils de collecte des données sur la sécurité alimentaire et les prix de produits alimentaires de base. Les détails avec Bernadette Nyangui.
Ces outils comprennent entre autres les mécanismes d'information périodique sur les prix des produits alimentaires de base. 414 marchés sélectionnés à travers les 145 territoires de la RDC seront les premiers à faire objet de ces suivis réguliers. Environ 30 produits alimentaires les plus consommés en RDC ont été identifiés. C'est notamment le manioc, le riz, le maïs, la viande, le poisson et les légumes. Objectif final, combattre l'insécurité alimentaire. Philippe Martou, chef de bureau du PAM à Goma.
C'est pour améliorer le suivi de l'insécurité alimentaire que le gouvernement de la RDC a organisé cet atelier sur l'analyse de la sécurité alimentaire et le suivi des prix des denrées alimentaires. L'analyse des prix permettra également de prévenir d'éventuelles crises alimentaires et d'adopter des stratégies qui permettront de les mitiger.
Ces outils complètent également le plan national de développement du gouvernement de la RDC, ont indiqué les délégués de la primature et du ministère congolais de l'agriculture à ses assises. Ce projet de lutte contre l'insécurité alimentaire, qui inclut la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, offre aussi les données de base permettant d'orienter le financement des bailleurs, a indiqué le chef des bureaux de PAM en Nord Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche est posée à UNMAS et le coordonnateur régional de ce programme, Bruno Bouchardi, répond. Suivez.
Guy Oloume, RTNC de développement. Je voudrais poser la question à UNMAS. Quels sont les territoires congolais affectés par l'utilisation de mines et à quoi consiste l'apport de UNMAS pour les victimes civiles de mines et quels sont les groupes terroristes qui utilisent beaucoup plus le mine?
D'abord, je dirais que les territoires qui sont le plus affectés par la prolifération, non pas des mines, mais plus généralement tous les explosifs de guerre, les résidus explosifs de guerre, sont les territoires où il y a actuellement des conflits qui se déroulent, donc à l'est, mais également les territoires qui ont été l'objet de conflits passés, où des munitions et des mines ont été abandonnées, où des troupes étrangères ont séjourné. Quant à vous dire quels sont les belligérants qui utilisent plus communément les mines que d'autres, là je me prononcerai pas, je serai très général. Je vous cite une phrase qui est assez historique dans le contexte du déminage. La mine, c'est le soldat le moins cher du monde. Donc c'est-à-dire que tout groupe armé, quel que soit son niveau de moyens, aura tendance à utiliser des mines.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Moïse Mouadianvita, Eric. Je suis marié à une charmante dame qui s'appelle Bettine Dangui et nous avons donc une jolie petite fille qui s'appelle Fef Mouenze. J'ai décroché mon diplôme d'état en maths physique à l'Institut du Mont Amba. Par la suite, j'ai dû m'inscrire à la faculté de polytechnique parce que j'étais porté vers les mathématiques et la physique, mais c'était juste un crochet parce que finalement j'ai dû atterrir à l'Istanbul où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. ingénieur technicien en aviation civile. À la sortie de l'université, je n'ai pas tout de suite pu trouver un emploi, comme c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de jeunes gens ici au Congo. C'est ainsi que j'ai dû rouler un tout petit peu ma bosse dans une ONG locale. J'ai travaillé comme bénévole en tout cas dans une ONG qui s'appelle Bureau pour le développement rural et urbain. C'est là que j'ai passé près de 3 ans et ce temps-là m'a permis quand même d'avoir une certaine formation de base qui m'a été très utile par la suite lorsque j'ai dû commencer avec la MONUSCO. C'était exactement en 2005, ça veut donc dire que je suis dans la mission depuis une bonne dizaine d'années. Actuellement, je suis donc assistant administratif au sein de la division de l'information publique de la MONUSCO. La division de l'information publique, c'est un département qui comprend beaucoup d'unités en son sein, notamment la radio Okapi que beaucoup de gens connaissent. Je me présente chaque matin vers 8 heures déjà au quartier général de la MONUSCO. Et là, je m'installe devant mon ordinateur pour ne quitter que vers 17h30. À l'heure où le travail prend fin. Mais il m'arrive quelquefois de quitter bien après 17h30, selon les exigences du service. Mes tâches quotidiennes sont administratives, comme vous pouvez le comprendre, et je m'occupe principalement d'apporter du soutien administratif à mes collègues nationaux premièrement, et la plupart de mes collègues d'ailleurs sont ceux de Radio Capi, donc une bonne centaine de personnes dont nous nous occupons au quotidien. Ce soutien peut être dirigé vers les ressources humaines, vers les finances, du soutien en termes de voyage lorsque les collègues ont besoin de voyager, ou encore tout autre soutien administratif. Nous de l'administration, nous sommes là pour les aider au quotidien. Et au sein de la MONUSCO même, nous avons quand même profité de beaucoup de formations qui nous ont permis à ne pas faire, en tout cas, et donner le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de notre travail quotidien. J'ai aussi quelques loisirs, comme tout le monde. Mes plats préférés, je mange tout ce qui se présente devant moi à table, mais je reconnais quand même que je suis beaucoup penché vers le sakamadesu, comme on le dit ici au Congo. J'aime bien le poisson salé aussi. Du côté sport, je suis quelque peu fainéant, si on peut le dire. Bon, pas très fainéant quand même, parce que chaque matin, je fais quelques pompes avant de prendre mon bain. Et les week-ends, quelquefois, il m'arrive de faire du jogging pour garder la forme physique, pour la forme spirituelle en tout cas. Je suis chrétien, membre d'une église de la place, membre d'une chorale, je joue du piano. Kombo na Yesu ezale na nguya. Kombo na Yesu ezale monene. Kombo na Yesu ezale na nkembo. Kombo na Yesu ezale na nguya. Donc, comme je le disais, je suis pianiste et guitariste au sein de la chorale de mon église. À part l'église, lorsque j'ai encore du temps libre, j'aime les promenades dans la nature, j'aime le grand air par rapport aux perspectives d'avenir. Je serais très heureux de pouvoir poursuivre ma carrière dans une organisation internationale. Ce peut être les Nations Unies, ce peut être tout autre organisme. Je crois que le temps que j'ai passé à la MONUSCO m'a permis de me faire une idée sur l'environnement international, et ça me plaît beaucoup de travailler dans ce cadre-là. Que la volonté de Dieu s'accomplisse.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et voilà, vous avez 3 dates à retenir dans votre agenda pour la semaine qui commence. Le 23 mai, c'est la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Le 25 mai, la journée de l'Afrique. Et le 29 mai, la journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Voilà, presque la fin de cette édition qui a connu la participation de toute l'équipe de ce magazine. Jean-Noël Mokondo à la technique, Jean-Pierre Elali à la coordination et au reportage Honoré Missenga Kalala. Vous avez aimé l'émission? Vous pouvez la réécouter en tapant sur www.radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mag US. Excellente journée dominicale à tous.